Dans cet épisode, on va parler de vibe coding et donc en 2026, coder ou vibe coder. Telle est la question.
L'utilisation numéro un, c'est la page blanche. Même si c'est pas bon comme code, c'est pas grave. Il a cassé la barrière.
Écrire du code, c'est facile. Ce qui te met dedans, ce qui te tue, c'est de maintenir le code. Hein.
Le secret, c'est qu'en fait, l'IA, elle lit la doc.
Tu sais, on dit souvent.
Elle écrit la doc.
C'est le fameux RTFM. Là.
Il a énormément de connaissances, mais il est pas très intelligent.
L'IA va être capable de pisser du code pour toi. Donc, il va falloir revenir aux fondamentaux.
Bienvenue dans À la French. Dans cet épisode, on va parler de vibe coding et donc en 2026, coder ou vibe coder. Telle est la question et on va parler de vibe coding avec mes deux compères, Steve Morin.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Jean-Baptiste Kempf.
Salut.
Salut Jules.
Salut Jules.
Un point important, on a écouté vos demandes. On a mis tous les épisodes sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Pocket Cast. Donc, vous pouvez retrouver tous les épisodes en audio only sur ces différentes plateformes. Et n'hésitez pas à liker cet épisode, à vous abonner et à laisser des commentaires comme vous les avez fait sur les épisodes précédents. Donc là, en 2026, c'est le vibe coding. Et moi, j'ai la question à vous poser. Pour vous, c'est quoi le vibe coding?
Déjà, c'est plutôt défini puisque c'est un terme qui a été introduit par André Carpati. Qui en gros, il a dit bon, bah, j'ai laissé le truc faire et puis j'ai dit auto accepte à tout et puis je laisse le truc faire et puis je corrige derrière et donc le terme est sorti comme ça.
C'était un tweet, hein.
C'était un tweet en
février 2025. Il dit ouais, en gros, je copie-colle.
Je laisse faire le truc complètement et d'ailleurs, je crois qu'il le faisait en vocal.
Et donc, toi, tu fais une différence entre utiliser de l'IA, des LLM pour coder et vibe coder. C'est-à-dire que vibe coder, c'est intégralement codé par l'IA.
Ouais, à quel moment? Ouais. Moi, perso, oui, en tout cas. Dans mon usage, oui. Je suis d'accord.
Parce que moi, c'est ce que j'avais compris au début et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant ont utilisé vibe coding en sens un peu plus large en disant, bah, j'utilise principalement l'IA, même si je la corrige.
Ouais, c'est un peu flou. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence entre vraiment laisser le truc. Je pense que ça dépend en fait du niveau, à quel niveau tu t'insères dans le processus. Parce qu'il y a un sujet, déjà, est-ce que je demande à l'IA de m'expliquer? Est-ce que je demande à l'IA de faire? Et quand je lui demande de faire, avec quel niveau de précision, d'abstraction, de correction? Et en tout cas, mais l'idée originale, telle que je l'avais compris, c'était que vibe coder, c'était vraiment, je vais avec le plus haut niveau d'abstraction possible. Et je laisse l'IA faire, avec quand même une composante intéressante, c'est que non seulement elle écrit le code, mais elle a aussi la boucle itérative de test. C'est-à-dire, bah, elle essaie de build, s'il y a une erreur, bah, on réinjecte l'erreur. Donc il y a une vraie boucle itérative. En tout cas, dans mon expérience, j'ai un peu de tout, quoi. Je lui demande des fois je la laisse écrire le code, et puis des fois je lui donne carrément la boucle itérative et je lui dis, écoute, débrouille-toi. En tout cas, c'est mon usage. Il y a un peu de tout. Vraiment, je mix and match. Mais pour moi, vibe coder, c'est vraiment le plus haut niveau. J'en fais pas encore.
C'est juste l'objectif. Fais ça, passe par ça. Parce qu'en plus, dans le tweet, lui, t'as raison, c'était qu'en vocal. Hein. Lui,
bah, lui il utilisait une transcription. Mais moi, je trouve que le vocal est une très bonne manière d'interagir avec les IA en général. Hein. C'est ce qu'on discutait la dernière fois dans l'épisode avec Nel. Mais lui, il avait un pipeline où il disait... j'utilise un transcriveur, donc Whisper, quoi, pour générer les commandes, pour laisser l'IA faire. Mais l'important, c'est que l'IA est introduite dans la boucle d'itération. C'est-à-dire, c'est pas juste elle écrit le code, elle le teste. Elle essaie de le builder ou ce que tu veux.
Tu vibe code, toi?
Moi, j'ai utilisé énormément d'outils avec du truc pur vibe coding. Donc, et le premier truc que j'ai fait, c'était avec V0. Donc c'est l'outil de Vercel, donc qui sont des gens qui ont quand même qui sont quand même très très impliqués dans tout le développement du front-end des front-end modernes, hein, autour de tout le framework Next, et surtout ils ont plein d'outils pour faire du déploiement vraiment vraiment agréable. Donc je connaissais pas mal Vercel et j'ai testé V0 pour faire des sites web, et là je dois avouer que j'ai été bluffé parce que en fait, effectivement, c'est vraiment là, on est vraiment dans le mode pure vibe coding. Tu lui dis, génère-moi un site web pour, à l'origine, c'était pour Kyber. Je lui ai collé la présentation PDF investisseur de Kyber et il est arrivé, il m'a pondu, il a récupéré les keywords, il avait le thème, etc. Bon, c'était pas incroyable, mais je dois avouer que tu passais de zéro à un site web en une heure et demie, quoi. Et en plus, comme c'est intégré à Vercel, tu cliques. Et ça déployait en live sur Vercel. Bon après, il y avait plein de soucis, mais ça, pour moi, c'était la première expérience. Et là, on est vraiment de vraiment donc dans la définition que Steve a pris, c'est vraiment du pur vibe coding. Et je trouve que c'est très bien pour des trucs assez simples où tu fais tu fais tout. Ouais. De l'autre côté, aussi bien sur VLC que sur d'autres projets open source, je fais pas du tout du vibe coding, mais j'utilise énormément les outils d'assistant au code, que ce soit j'ai évidemment du Claude, qui est ce que je préfère, mais aussi du Codex, donc l'équivalent de Claude par OpenAI.
Tu parles des modèles ou tu parles des CLI ?
Des CLI.
Ok. Donc Claude Code et Codex.
Ouais. Et Devtral, donc le truc du Mistral, ouais, que je regarde pas mal, parce que pour moi, c'est assez intéressant, parce que ça va être celui que je vais pouvoir faire tourner en local, ouais, qui est quand même un de mes objectifs et qui m'aligne mieux avec la partie open source. Mais dans ces cas-là, j'ai plusieurs choses. J'ai soit le mode, je fais une petite modification, donc j'y vais, et donc je le guide en disant, à la main, en CLI, fais ça. Donc là, on est vraiment dans la définition de Steve, un peu plus loin du vibe coding, mais c'est, même si c'est très très utile, notamment, on va revenir, mais notamment pour le problème de la page blanche. Mais ce que je fais aussi, c'est certains projets où là je suis, donc c'est un peu entre les deux, c'est qu'en fait j'ai un plan, donc j'ai un fichier Markdown où tu expliques en fait au LLM de code, je vais l'appeler LLM de code, ce que je vais faire. Donc t'as le contexte, t'as bonjour Jacob Claude, bonjour Jean-Claude.
Jean-Claude.
Jean-Claude. Aujourd'hui, on va faire un back-end de gestion de machin, etc. L'objectif, tu vois, les objectifs. Et puis ensuite, voilà les dépendances que je veux, voilà le langage que je veux un routeur comme ça pour mon API, je veux, etc. Et en fait, avec des petites checkbox, quoi. Et puis, petit à petit, oui, et tu dis, et ensuite, tu fais les étapes. Et là, moi, je suis assez, je suis de plus en plus directif. Je veux une classe qui fasse ça. Je veux une classe qui fasse ça. Et puis, même, à un moment, tu vois, je lui écris comment je veux l'API. Donc, là, c'était pour du back-end. Voilà comment je veux que mon API, elle soit une REST. Elle repense à ça. Globalement, je veux que chaque call d'API soit dans son propre fichier. Et je le fais avancer comme ça. Et je lui dis, après chaque étape, tu t'arrêtes et on revoit. Et donc, en fait, et ça prend plusieurs jours. Mais donc, c'est du vibe coding très guidé, mais je n'écris quasiment pas de code. Mais vraiment, on arrive...
Tu fais ça dans quel langage, toi, en l'occurrence ?
Alors, moi, j'ai fait du Go, génial.
Ouais.
Du TypeScript, évidemment, et du Next, génial. J'ai fait du Rust. C'est un peu plus hasardeux, mais c'est vrai que comme il y a le compilo Rust de l'autre côté,
tu t'en sors
parce que lui, t'entends, il génère des trucs et tu dis mais ça, j'y crois pas. Effectivement, ça compile pas. J'ai fait du C, nickel. Mm-hmm. Les premières versions que j'avais testées en C l'été dernier, c'était nul.
Ouais.
Soyons très honnêtes, c'était nul. Et là, dernièrement, et notamment sur VLC, il y a quelqu'un de l'équipe de VLC qui s'appelle Thomas, qui sait vraiment produire du C de bonne qualité avec Claude.
Et t'as fait de l'assembleur en vibe coding.
Et mon objectif, et c'est le gros sujet, c'est de faire de l'assembleur, parce qu'en ce moment, en fait, là, on lance le projet David 2, enfin, 2D, quoi. On a fait la démo quand j'étais au CS, là, il y a quelques semaines, du premier décodage AV2 avec VLC. Et David, le premier, on a quand même 240 000 lignes d'assembleur écrites à la main, à peu près 45 000 par plateforme. Et c'est très chiant, parce que vraiment, on a des perfs de ouf, hein. Parfois, on fait du x50 sur des fonctions. Mais quand même, c'est un peu pénible.
C'est d'ailleurs assez fort sur le compte FFmpeg, il montre sur le Twitter FFmpeg, il montre, tu vois, les deltas qu'ils arrivent à avoir entre C et genre l'assembleur, c'est 10, 20, 50, 100x, tu
Alors,
vois.
Ouais,
c'est l'artisanat là, c'est fait à la main.
Ah oui, tu vois,
c'est...
dans David, on va même jusqu'à avoir notre propre calling convention entre les fonctions.
Ah oui, d'accord.
Pour récupérer des registres pour aller plus vite quand tu changes de fonction. Alors que normalement, tu vois, t'es censé réécraser ta stack, etc., sauver tes registres. Là, nous, on a nos propres, notre propre API qui est pas l'API ni Linux, ni Windows parce qu'on sait qu'on s'appelle. Donc, ouais, on est allé très loin dans David. Mais là, l'objectif, c'était de voir, et notamment parce que, pour AV2, c'est d'arriver plus vite à l'équivalent de David. Et donc, on s'est dit, bah, est-ce qu'on est capable de générer? Bon, alors la réponse, c'est non, pas du tout. En particulier parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait dans le multimédia, c'est pas beaucoup de l'assembleur en soi, c'est ce qu'on appelle du SIMD, donc c'est Neon, AVX, SSE, MMX, pour les gens qui sont vieux comme moi. Mais c'est, en fait, c'est de la programmation vectorielle, l'accélération vectorielle sur des CPU. Et là, en fait, ils n'ont pas assez de données d'entraînement.
Ah bah ça,
donc, on a essayé plusieurs choses. On a essayé de base. On a essayé de faire une sorte de... On remet du contexte. C'est-à-dire, tiens, on a fait ces fonctions. Voilà la fonction C, voilà la fonction assembleur équivalente. Est-ce que tu es capable de le faire? On a essayé de faire des trucs en RAG. Alors, ça, le problème, c'est qu'on n'est pas très bon en outillage IA. Bref, tout ça, c'était vraiment pas bon pour le moment. Vraiment, on n'y est pas. Et j'ai fait du Zig un peu, et ça allait, mais c'était light.
Vaste
quoi.
Sujet, Zig.
Ouais, toi t'en fais.
C'est mieux. C'est mieux qu'il y a 6 mois. Il y a 6 mois, c'était une catastrophe.
Bah, comme le c'est quoi.
Ouais. Maintenant, c'est mieux, mais bon, Zig étant un langage qui bouge beaucoup.
Ouais, c'est ça. Comment tu fais? Parce que ça bouge. T'as des.
En gros, tu veux pas lui demander. Si tu restes sur la stable, ça se passe pas trop mal. Il y a un truc qui marche bien apparemment, c'est de lui donner la stdlib. Le code source de la stdlib, parce que dans Zig, en fait, la stdlib est compilée à chaque fois. Enfin, elle fait partie de la.
C'est quoi la taille de la stdlib?
C'est, je dirais, quelques dizaines de milliers de lignes de code. C'est gros, mais en fait,
et en token, ça ferait quoi? Ça ferait quasiment.
Le truc, en fait, c'est qu'il va chercher. Okay. La bonne nouvelle de la stdlib de Zig versus les autres, c'est que, en fait, Zig, la façon dont ça fonctionne, c'est que t'as qu'une qu'on appelle compilation unit. Et donc, en fait, ça donne pas mal d'avantages. Bon, c'est un vaste sujet qu'on pourra développer, mais. Et un de ses avantages, du coup, c'est que bah, tu compiles que les fonctions que tu utilises vraiment. Et donc, bah, la stdlib fait partie de ces fonctions. Donc, en fait, si tu lui donnes accès à la stdlib, les changements, à part des trucs très bas niveau, ils se débrouillent.
Mais, donc,
mais
ça veut dire que
c'est pas parfait.
Ça veut dire que tu injectes la stdlib dans ton contexte.
Tu lui donnes accès. Non, non, tu l'injectes pas. Tu lui donnes. Parce que quand tu es en mode, pour ceux qui font de l'agent, tu es en mode ask. Et donc, en fait, il se débrouille, il va chercher.
Okay.
Je sais pas si tu as essayé, mais maintenant, tu lui donnes plus le code. En fait, c'est lui qui va le chercher à coups de greppe, des trucs comme ça. La semantic search, ça marche pas tellement, mais voilà.
Mais d'où ça vient? Enfin, si on fait un peu l'historique, un peu du vibe coding, parce qu'il y avait les boîtes comme Cursor qui s'était lancé en 2022, il y avait Windsurf aussi qui s'était lancé. Ouais.
Antigravity maintenant, chez Google.
Qui sont fait racheter par Google. Mais c'est quoi? C'est Claude Sonnet, la 3.5, qui a vraiment fait un virage, là, l'été 2024, là.
La vraie fondamentalité, c'est quand on a eu ce qu'on appelle du tool calling. Et en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu, en fait, le tool calling, c'est une manière de dire, en fait, le modèle, tu vas lui poser une question. Donc là, pour le coup, c'est OpenAI qui a quand même été. Les premiers à sortir ça. L'idée, c'était de dire, tu peux pas tout injecter en avance. Donc concrètement, en fait, pour ceux que ça pas le RAG, c'est une manière de dire le retrieval augmented generation, c'est une manière de dire sachant que avec un certain nombre de choses, à la fin ta question, t'as ou tes questions. L'idée du tool calling, c'était de dire on peut pas
du contexte,
savoir.
Quoi, c'est vraiment redonner un contexte un peu
en fait,
plus orienté.
C'est push versus pull, c'est-à-dire le modèle il va te dire ah tiens par exemple tu vois l'exemple qu'ils avaient c'était quelle température il fait à Paris. Et donc, tu ne vas pas lui injecter la température de Paris avant de lui poser la question si tu ne la connais pas. Et donc, l'idée, c'était de donner au modèle un certain nombre d'outils en disant, bah, tiens, si tu veux faire ci, j'ai un outil pour récupérer la température courante, etc. Et le modèle, quand tu lui posais une question, te répondait en disant, ah, il faut tout le call. Il faut donc dire, tiens, je veux appeler la fonction, je veux la température avec la ville, c'est Paris. Et donc, en fait, l'idée, c'était qu'au début, c'était un peu galère parce qu'il appelait des API à toi. Enfin, c'était chiant. Donc, ils ont changé ça en disant, bah, il te dit qu'il veut appeler un outil. Toi, quand tu le rappelles, tu lui injectes la réponse de l'outil et ça continue. Et donc, ça, c'était un peu l'embryon, mais c'était d'ailleurs, c'est toujours le cas parce que c'est la primitive de base que tu utilises. Mais du coup, on s'est dit, bah, attends, on peut lui donner, du coup, tiens, bah, va demander accès à mes fichiers, va écrire des fichiers, tu vois. Donc, tu as un certain nombre de primitives. c'est un peu l'équivalent de POSIX, tu vois, mais version LLM, quoi, que tu donnes, en fait, au modèle, et le modèle décide de les utiliser ou pas. Ce qui a vraiment fait la différence, probablement, à l'époque de Claude en particulier, pas Claude Code, hein, mais vraiment le modèle, c'est qu'il était meilleur en tool calling. Et donc, en fait, ça lui donnait un peu des ailes quand on était dans un contexte, finalement, donc en l'occurrence, de tout ce qui est avec Cursor, les composers, etc. Et la deuxième chose qui est en particulier de Cursor, c'était la semantic search, c'était de dire, on ne peut pas donner tout le code au modèle, on va l'indexer avec ce qu'on appelle une vector database, et ça a bien marché. Alors, le vector database, ce n'est pas parfait dans le cas du code, mais voilà, le fait que les contextes deviennent de plus en plus gros, donc le contexte, c'est la mémoire, on va dire, court terme du modèle, qu'on puisse leur donner la possibilité au modèle de dire « Ah, il m'en faut plus !» Et voilà ce que j'aimerais creuser un peu avec toi. Et la troisième, évidemment, ce set d'actions, ça a fait que... Et du coup, on a entraîné les modèles à faire plus de tool calling, évidemment.
Et aussi, les modèles sont indexés sur plus de tokens de code source aussi.
Ce qui était, bien sûr.
Ce, ouais. ce qui est petit à petit, parce qu'on s'est rendu compte quand même globalement qu'il y avait quand même une industrie qui était pas disruptable, mais en tout cas qui pouvait être... énormément changé.
Tu peux tirer, ouais, clairement.
C'est quand même énormément de code, il faut le dire, hein, c'est un peu méchant, mais énormément de code, c'est nul, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, 90% du boulot de programmation dans le monde, c'est pour ça que tu fais beaucoup d'outsourcing, c'est des outils internes d'entreprise. Et quand tu regardes le chiffre, notamment d'outsourcing, de développement, principalement en Inde, mais pas seulement, on parle de dizaines de milliards par an, voire centaines de milliards par an. Donc à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un vrai marché, il y avait un vrai business qui était un business à avoir aujourd'hui. Et donc, les entraînements des modèles ont pris de plus en plus de tokens d'entraînement sur du code source. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout ce qui est JavaScript, tout ce qui est Java, ouais. .NET, c'est les choses qui ont été les plus injectées dans les modèles, parce que c'est là où t'as le plus de boulot à faire.
Parce qu'ils entraînent les données sur quoi, là? Je lisais à un moment, ils disaient qu'ils ont entraîné sur tout GitHub, tu vois, tout le code open source un peu disponible. Il y en a qui mélangent avec les bases de code des entreprises directement à l'interne. Mais est-ce qu'il y a eu un changement? Où est-ce qu'ils ont trouvé tout le code un peu pour faire les modèles?
En fait, t'as quand même beaucoup de code qui est disponible et des grosses bases de code. Et puis surtout, quand tu te rends compte sur GitHub ou sur les projets open source, la quantité de code, elle est monstrueuse.
Mais la qualité, si on prend l'ensemble de tout GitHub, la qualité...
Ouais, mais attends, c'est très simple. Hein, tu fais un filtre par nombre d'étoiles. Hein, tu...
Ouais,
après,
ce qui est intéressant, c'est que le modèle, il peut généraliser. Tu vois, en fait, comme je dis à chaque fois, ce qui est fascinant pour moi avec l'AI, c'est que L'AI, c'est en fait les propriétés sont émergentes. Donc, plus de données, tu vois, les propriétés émergent. Et ce qui est assez fou aussi dans le cas du code, c'est que tu as des concepts qui en fait transcendent le langage, par exemple dans lequel ils sont écrits. Et le modèle sait généraliser ces concepts parce que si tu veux, on retrouve les mêmes choses. Donc, tu as une forme de savoir qui peut se transmettre d'un langage à l'autre. Et donc, en fait, finalement, c'est une sorte de base de données.
Ouais, donc en fait, il faut savoir, en fait, c'est que quand tu prends un langage de programmation, avant de le transformer en instruction machine, notamment, tu as une première passe qu'on appelle la passe de parsing, qui te construit, en fait, un arbre qu'on appelle l'AST, qui est un arbre syntaxique.
Abstract syntax tree.
Les anciens cours d'informatique, il y a longtemps.
Ce qui est important pour les gens bien comprendre, c'est que ça, c'est une représentation logique du code. Et ça, en fait, ça transcende les langages. Donc, en fait, à partir du moment où t'entraînes correctement, que justement l'entraînement, le renforcement fait sortir des propriétés au code, en fait, tu te rapproches un peu de ces concepts-là. Et si t'es un petit peu malin, en fait, tu vois des choses qui sont multilangages. Et donc ça te permet, en fait, notamment, il y a beaucoup de choses qui font où tu prédis. Et ça, c'était avant l'IA. Tu prédis un AST, c'est-à-dire que tu crées la logique, et après tu dis, maintenant, génère-moi le code qui correspond à la logique. Et donc, tu peux aujourd'hui faire des trucs vraiment, vraiment cool avec ça.
Et puis, il y a aussi un truc, il y a eu deux étapes. Il y a eu les partenariats avec Stack Overflow. Quand OpenAI a acheté les données à Stack Overflow, je crois que c'était 120 millions, 170 millions, je ne sais plus, mais une trop grosse somme d'argent. pour acheter toute la code base entre guillemets, parce qu'en fait avant le vibe coding, on allait sur Stack Overflow, on posait une question, on allait, on copiait le code, on copiait-collait, on essayait. Maintenant,
c'est ça où je trouve qui est génial dans le cas du code en particulier. D'ailleurs, juste sur le code, faut voir selon les stats d'OpenAI, le code, enfin les sujets code, ça représentait dans les reports qu'ils ont fait, je sais pas, il y a quelques mois, 3% des requêtes. Donc on laisse imaginer quand même la part du gâteau ailleurs, mais sur les sujets code, là où l'IA a toujours été bonne, mais comme les sujets de droit, comme les sujets machin, c'est la spécialisation de savoir généraliste. J'ai un problème très précis avec machin. Dans le monde de la recherche, avec un peu de chance, quelqu'un l'avait eu avant toi, et donc où tu devais inférer toi-même une réponse. Là où c'est merveilleux dans le cas du code, c'est que compris le problème, mais là, j'ai cette particularité-là qu'il faut que tu tiennes compte. Et c'est là où c'est magnifique.
Moi, à un moment, vous l'avez vu sur Stack Overflow, il y a vraiment ce graphe-là qui est connu où on voit les questions, commence à descendre, et quand ChatGPT sort, on voit vraiment que ça chute. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Stack Overflow, leur CEO a fait un post, ils n'ont plus de trafic du tout. Par contre, ils revendent la codebase aux entreprises pour entraîner les modèles en interne. En tout cas,
moi, je note quand même que la courbe, elle a commencé sacrément à descendre bien avant. Et la réponse, c'est parce que la communauté est toxique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'endroit où tu allais toujours. Et puis, petit à petit, il y a un vrai problème de gestion de communauté. Stack Overflow n'a jamais travaillé là-dessus. Et donc, t'arrivais avec plein de questions.
Et on te prenait pour un noob
et on te disait, t'es un idiot, tu comprends rien
déjà
à rien.
Répondu ici,
et c'est déjà répondu. Alors qu'en fait,
ça s'appelait StageDot avant.
Sauf que c'était pas un endroit. StageDot, tu y vas pas pour avoir des réponses à des questions.
Oui.
Et Stack Overflow, tu regardes la courbe, ça fait quand même un sacré moment. Et tu vois, avant l'arrivée de ChatGPT, t'étais quand même à moins de la moitié du pic. Donc là, c'est sûr que l'IA, les assistants de code ont plié le game, mais ils ont un problème qui quand même était un problème
plus structurel
qu'ils n'ont pas investi, parce que tu vois, ils auraient été, par exemple, ils auraient été les premiers à faire un assistant de code, tu vois, quand les LLM sont sortis.
Mais le CEO de Tailwind, là,
je ne sais pas si tu as suivi, là, mais gros, il y a le Tailwind, donc ils font le framework
De CSS.
De CSS, ouais. Qui est, moi, vachement bien. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup.
C'est cool.
Ils ont viré 75% de
Ils étaient 4. Ils étaient 4. Ils en ont viré 3 sur 4. Mais,
c'est vraiment ça?
Ouais, non, c'est vraiment ça. Il y a 4 ingénieurs, ils en ont viré 3 sur 4.
Il a mis 75%.
Il a mis 75% des salariés ont été virés.
Pour dire que, si tu veux, les gens avant allaient sur leur site pour voir la doc, ça pose même la question de la valeur intrinsèque, par exemple, dans le cas de Tailwind. Puisque, pour moi, avant, ingénieur, j'allais lire la doc, je choisissais mon framework, Next ou n'importe quoi d'ailleurs. Je choisissais mon framework, je disais « Ah, je préfère celui-ci à celui-ci, celui-ci me paraît plus intéressant. » Mais à la fin, en fait, si c'est une IA qui génère mon website ou peu importe, en fait, Tailwind ou n'importe quoi, ça devient une commodité pour moi et j'ai même plus de rapport au sujet, j'en ai presque un peu rien à foutre.
C'est ceux qui disent que l'IA, au fond, va éclaircir là où il y avait la valeur, quoi. Là où il y avait de la valeur.
Mais tu peux faire le parallèle. Le parallèle est fait avec déjà Google. Moi, il y a beaucoup de trucs. Maintenant, je cherche plus sur Google parce que c'est des besoins. Tous les trucs de code, c'est des trucs tellement contextuels à ce que je suis en train de faire, tellement précis que Google, best case, tu vois, je passe les deux prochaines heures à essayer de trouver un truc remotely. Comme j'aimerais. Donc déjà, il y a ce chose que je ne fais plus. Mais ça pose la question en général, d'ailleurs, du rapport qu'on a même au langage, tu vois. Parce que finalement, le langage, c'est un outil pour faire. Est-ce qu'il est adapté? En tout cas, moi, ça me pose la question. Je me dis à un moment donné. Mais dans mon cas, vraiment, moi, c'est pour le love of the game. Moi, quand je fais ma bonne ligne de code, j'ai vraiment la patte de l'artiste. Tu vois, je me lève et je me dis, tu vois.
Et Linus Torvald qui utilise l'IA? Qui a dit là récemment dans un article que oui, il a essayé de vibe coder un truc et que
mais il l'a dit parce project... que il l'a dit parce que il disait que Python il connaît rien et que
mais là, tout le monde que... il disait pour mais un set project il l'a fait mieux que ce qu'il aurait fait mais pour un set project mais il dit par contre Linux on touche pas
tu vois, mais c'est toujours le même sujet, c'est le code qui est un peu léger, un peu plus facile à faire, où il y a moins de technicité.
Non, mais qui pourrait même apporter de la valeur.
C'est le thermomix de l'IA.
Tu vois,
quoi.
Je te donne un exemple. Nous, on utilise un truc pour faire du tracing cycle par cycle sur certains chips. Et l'outil pour afficher, si tu veux, les traces. Donc là, c'est pas des temps, tu vois, c'est vraiment les cycles, machin. Et donc, il n'y a même pas de cache miss ni rien, tu vois, c'est vraiment juste les cycles. Et tu vois, l'outil pour afficher ça était un peu compliqué. On a demandé, on a donné un extrait du dump, on a dit à je ne sais plus quelle IA, génère-moi un script qui te convertit ça en Perfetto. Et ça a pris peut-être un quart d'heure. Par contre, la valeur qu'on a eue, du coup, d'afficher ces traces, tu vois, dans un outil comme Perfetto, ou d'ailleurs, peu importe, est bien plus grande. Et d'ailleurs, ce script, honnêtement, la façon dont il est écrit, j'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est un one shot, je le lance sur un dump. Ça prend 10 ou 5 secondes, je m'en fiche. Pas 2 heures, par contre. Mais par contre, la valeur que j'ai, parce que Perfetto est bien plus avancé sur le display, sur quand je display, tu vois, 10 000 spans, bah, mais ça tourne pas à 2 FPS, etc. Ça, la valeur est énorme et nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait simplement pas faites. Donc ça, quand même, c'est incroyable. D'ailleurs, la boîte qui fait le chip, ils étaient là, ah, merde, putain, trop bien. Donc là-dessus, oui, clairement, ça délivre. La maintenance, par contre, si ce script devait être un jour professionnalisé, maintenu, il est évident qu'on ne le ferait pas comme ça. Peut-être, mais en tout cas, pour valider la chose, ça nous a quand même été très, très, très intéressant.
Et pour moi, c'est ça, l'utilisation numéro un, c'est la page blanche. Avant, tu disais, bah, il faut que j'aille me faire pour mon back-end mon connecteur à Stripe ou Stripe Billing, tu vois, le truc classique ou des équivalents open source français qui existent. Putain, tu commences. Et tu fais quoi? Tu vas regarder sur la documentation, t'oses pas commencer, puis tu vois, là, il est 15h, alors en fait, il faut que t'aies une journée bien à 9h, ouais. pour te rentrer dans le truc. Donc pendant 2-3 jours, tu réfléchis.
Loader le contexte.
Tu vois, exactement. Et tu regardes la doc, etc. Là, il est 16h30, tu vois, vas-y, t'y vas, et tu dis, fais-moi un connecteur pour Stripe. C'est vraiment le truc des connecteurs pour Stripe, c'est vraiment, il faut aller regarder l'API en ligne, tout est documenté, c'est indexé comme il faut. C'est le truc, en 10 minutes, c'est fait, toi. Et c'est vrai que, même si c'est pas bon comme code, c'est pas grave. Il a cassé la barrière, c'est-à-dire que t'as la V1. Ouais. Et après, tu peux y aller.
Et tu rentres dans le flow plus vite, du coup. Parce que ça y est, tu vois, toutes les emmerdes ont été gérées pour l'instant.
Ça compile, est-ce que ça fait la requête? En plus, il te fait tes tests unitaires directement. Donc, tu vois, est-ce que mon workflow Stripe fonctionne? Génial, et t'y vas. Et ça, c'est vrai que ça te fait gagner un temps important. Que je vais appeler de temps de cerveau. Ouais, tu vois,
de loader le contexte. Pour moi, c'est vraiment, faut s'y mettre, faut y aller.
Ouais, c'est ce qu'on appelait le flow, quoi. C'est-à-dire, j'ai le problème et ça y est, je suis dans ma boucle itérative où là, ça y est.
Et là, faut pas m'emmerder. Voilà, et là, faut pas me déconcentrer.
Mais t'as eu mon email?
Voilà.
Mais t'es pas dans de l'algo compliqué, t'es pas, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est de là, tu vois. L'exemple, là, qu'on utilise sur VLC. Donc, tu vois, VLC, pour donner une idée, c'est un petit corps qui fait à peu près 100 000 lignes de C, et après, t'as plein de modules, à peu près 500 modules. Mais tu vois, des sorties audio dans VLC, il y en a une vingtaine. T'en as 3 sous Mac, t'en as sur iOS, etc. Et puis souvent, en fait, on arrive, on doit porter VLC sur une nouvelle plateforme. Là, tu vois, mon sujet, là, c'est de voir si on peut porter VLC sur VegaOS, le nouvel OS d'Amazon qui est pour les Fire TV, parce qu'ils ont quitté Android. En fait, on a fait le truc il n'y a pas très longtemps. T'arrives, tu lui dis, voilà tous mes autres audio output de VLC. Voilà la documentation système de Vega OS, où là, c'était un autre OS. Code-moi le truc. Et là, il arrive. En fait, il te dépile. Et même chose, le code, il n'est pas incroyable. Ce n'est pas ce que tu veux. Mais au moins, en une demi-heure, tu l'as fait. On a fait une démo au CES. Et donc là, je vais te montrer l'exemple. Et ça, c'était génial. On a fait une démo au CES. Je partais le mardi, qui doit être le 6. Le lundi matin, je vais voir un des devs de VLC et j'ai dit, écoute, j'ai besoin d'une démo AV2 pour demain.
Ouais, ok.
Mais je sais que le décodeur AVM, pour AV2, le décodeur, la librairie de référence, elle ressemble à la bibliothèque de référence de AOM, de AV1. Le module, il devrait être partagé. Voilà le truc, voilà les samples. Franchement, tu penses que tu peux le faire? Franchement, il a dit, adapte-moi le code du décodeur AOM, donc d'AV1 en AV2, et en une heure et quart, le truc était fait. En temps normal, ça nous aurait pris...
Une bonne journée, au bas mot, je pense.
Plus, parce que mentalement, tu vois, le travail mental, c'est 3 jours de taf. Là, en 2 heures, c'était parti. L'après-midi, tu vois, au déjeuner, le truc était fini, tu vois. Alors que c'était le lundi matin, où t'étais weekly, etc. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, l'angoisse de la page blanche et la connexion aux API externes, aux bibliothèques externes, ça, c'est génial.
Mais le secret, c'est qu'en fait, l'IA, elle lit la doc. Tu sais, on dit souvent.
Elle écrit la doc.
Tu sais, le fameux RTFM, là, Read the Fucking Manual, tu vois.
Mais tu sais, moi, le truc, à chaque fois que je démarre un nouveau truc, il y a quand même. Et c'est vrai qu'on sous-estime, et je raisonne beaucoup avec ce que dit JB, étonnamment. Ce qu'on sous-estime, c'est ce côté. Ah non, de Dieu, il faut que j'y aille, tu vois. Et en fait, c'est pas maintenant, parce que là, je dois manger avec machin. T'as toujours un truc. Et donc, en fait, quand est-ce que je vais avoir un bloc de 4 heures ininterrompu, sans un meeting derrière où j'anticipe le meeting et tout.
1 heure du matin.
Voilà. Et donc, exactement. Et donc, du coup, ce côté de dire. Alors que si j'étais déjà dans ma boucle itérative, je pourrais la quitter et y revenir. Mais ce qui est long, c'est d'y arriver. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, l'IA, pas partout, pas surtout. Il me permet d'aller vite dans ma boucle itérative ou me dire, écoute, je sais que tu vas pas le régler, je sais machin, mais au moins pour les détails, s'il te plaît, pour la grande partie des détails qui me réclame l'énergie mentale d'y aller, règle-moi ça, amène-moi au point où je peux être dans ma boucle itérative, où je fais mon test, voilà. Où je fais mes bricoles, et puis après, mon test va me donner le contexte qui va me permettre après de prendre le recul, et après évidemment que je vais aller bricoler et que voilà.
Et moi justement, donc étape 2, refacto. Fais une première version, et là tu dis bon, écoute, cette fonction là, et tu lui dis typiquement la fonction, je veux que tu la coupes en deux, coupe-moi les trucs en, enfin tu vois. Et donc là je fais vraiment cette partie réarchitecture du code, du fichier, pour que faut que ça matche comment moi je le ferais. Pour moi c'est vraiment là la limite du pur vibe coding. C'est pour ça que j'aime
bien. C'est ça, exactement. C'est que je vois où tu vas. Ouais.
Un assistant de code. C'est un très bon stagiaire. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, et c'est comme ça que je le vois. C'est quelqu'un qui va te faire ces tâches-là, qui va te faire la première version. C'est pas lui qui va te réfléchir aux algos complexes. C'est pas lui qui va réfléchir à la big picture, à l'architecture, comment tu fais tes paquets réseau. Je parle tout de suite sur Kyber. Mais tu vois, tu vas lui donner une tâche, il va être capable. Il a déjà 20 exemples. 20 exemples de trucs existants et il va le faire relativement bien. Et si tu utilises bien tes assistants de code, en fait, ça fait 3-4 stagiaires. Mais ça veut dire, et ça, c'est pour moi le problème numéro 1, c'est que ce sont des outils qui sont géniaux pour des seniors. C'est des gens qui ont 10 ans de code derrière eux, qui se sont déjà tapés toutes les erreurs, tous les mecs qui ont déjà eu, ou les nanas qui ont déjà eu le problème de les problèmes de sécurité, d'appeler les API RS, les CSRF, les OSPM, etc. Enfin, tous les cores, les machins, etc. En fait, si toi, tu as vu ces problèmes-là, en fait, tu es capable de dire, attends, mais là, fais attention à ça. Il va te dire, ah oui, tiens, j'ai oublié de m'occuper de ces télécores, j'ai oublié de... etc. Alors que, de base, si tu dis vibe code, ça devient vite du code pas incroyable. Alors quand c'est un petit site web quasiment statique, c'est très simple. Mais quand ça commence à être des code bases compliqués, c'est assez dangereux.
Moi, ce que j'aime bien, mon modèle mental là-dessus, c'est que il a énormément de connaissances, mais il est pas très intelligent. Enfin, on a quand même besoin de comprendre ce qu'on fait, ce qui se passe. Mais comme il a beaucoup de connaissances, il peut nous aider à comprendre du coup. Et moi, par exemple, tu vois, en ce moment, on fait des gros patchs dans LLVM et tout. Tu vois, tu débarques, en plus sur un truc, des chips un peu spéciaux et tout. Si t'as pas de contexte, comment tu démarres? Et donc, le fait de démarrer avec une question très haut niveau, et puis lui, du coup, il découvre, il connaît la code base, parce que c'est quand même, l'LVM. Et on arrive comme ça à aller à un niveau de compréhension qui fait que je peux lui donner des choses à faire. Et des fois, il les fait bien, des fois, il les fait mal. Et puis, mais ça m'empêche pas de comprendre. Par contre, je gagne un temps monstrueux, parce que l'alternative, c'est quoi? C'est que la personne en face qui a écrit le code, elle soit dispo pour me répondre. Déjà que je la connaisse, si tant est. Enfin, donc ça, ce côté un petit peu accélération de la compréhension. Évidemment, cette compréhension, elle va vite parce que moi aussi, j'ai mon contexte et que, quand on parlait tout à l'heure de calling convention, je sais ce que c'est et que ce type-là, il est mal vectorisé et que du coup, ça fait une assertion dans l'LVM. Bon, tu vois, il faut comprendre ce qui se passe. Mais ça, c'est quand même...
Mais justement, et donc ça, c'était mon point, c'est qu'en fait, il faut faire attention, c'est que c'est très bon pour les seniors, mais ça va changer un peu la formation, notamment des écoles, en fait, qui sont des écoles de qui t'apprennent vraiment à pisser du code. Désolé de l'expression, mais c'est un peu ça. C'est que là, l'IA va être capable de pisser du code pour toi. Donc, il va falloir revenir aux fondamentaux. Il va falloir comprendre ce qui se passe dans ton ordinateur, comprendre ce que c'est un OS. Et donc, je pense que c'est un peu difficile. C'est que ça veut dire que tu vas rentrer dans un côté un peu plus intellectuel, un peu plus archi, un peu plus comprendre un ordinateur, comprendre l'OS pour devenir des bons développeurs. Sinon, tu vas être juste des vibe codeurs. Et je pense que malheureusement, beaucoup d'entreprises vont juste vouloir avoir des singes qui codent.
Ouais, mais après, l'opportunité, c'est que l'IA, elle t'aide aussi à comprendre des choses que dans un modèle un peu plus éducatif, tu vois, elle peut t'aider à comprendre, bah tiens, c'est quoi un syscall, c'est quoi une calling convention, tu vois.
Ouais, mais il faut malheureusement, et ça de toute façon, mais ça c'est pas juste dans le code, mais ça c'est mon avis, c'est il faut avoir une fois mangé le problème dans la tête pour le comprendre.
Oui.
Moi, quand j'ai créé mes sociétés, les premières, c'est moi qui ai fait la compta à la main. Je vous déconseille de faire ça, mais c'est génial de le faire une fois. Tu le fais 3 mois. Après, tu arrêtes. Tes premières fiches de paye, tu le fais. Mais quand tu t'es bien posé cette question, ouais, après, tu peux le déléguer, t'as un comptable, etc. Mais au moins, tu sais ce que tu demandes aux autres. Et là, le problème, c'est que si tu formes trop vite...
Tu te fais le palais. Ouais,
c'est si tu te formes ça, ouais. trop vite au vibe coding très, très tôt, bon, en fait, tu codes pas assez, quoi.
C'est le fameux article assez connu, mais c'est plus pour les startups, mais ça s'applique à tout, de Paul Graham, là. Do things that don't scale. Faites des choses qui ne passent pas à l'échelle.
Pour moi, c'est pas la même chose.
Ah ben si, parce que dans l'article...
Tu peux l'adapter au code.
Dans l'article, il le dit, avant d'automatiser, avant d'essayer de passer à l'échelle, il dit, faites-le à la main, voyez les process,
voyez les problèmes. Ouais, mais il le dit aussi pour s'adapter mieux au project market fit.
Si tu veux, pour comprendre ce qui se passe, en fait, avant d'automatiser,
okay.
avant
de scaler, le concept.
Avant d'automatiser, avant de scaler, faut avoir compris tous les enjeux, les subtilités, ouais. Parce qu'une fois que tu vas passer à l'échelle ou que tu vas automatiser, t'auras plus la main dessus et tu comprendras plus ce qui se passe dans la machine.
Et pour moi, ça, c'est important, c'est que l'avantage, c'est que tu vas pas avoir besoin d'faire autant de langages de programmation différents. T'as fait un C, t'as fait du TypeScript et t'as fait un langage vectoriel, scalaire ou fonctionnel ou un autre type de langage. L'IA va t'aider parce que tu vas pouvoir passer d'un langage à l'autre beaucoup plus facilement, puisque t'as pas besoin d'avoir compris tous les détails et les subtilités du C++ ou du Rust. Mais par contre, il faut bien avoir conceptualisé les choses, sinon tu vas te faire aspirer et tu vas pas, et surtout tu vas faire des codebases qui vont devenir immaintenables. Et c'est ça le risque.
Bah, justement, il y avait un post sur LinkedIn de Julien Mangeard qui déplorait que là, à 42, on n'apprend plus le C. On fait full Python, quoi.
Et pour moi, c'est une erreur fondamentale. C'est que beaucoup trop d'écoles écoutent trop les entreprises. Or, les entreprises, en fait, elles ont comme objectif de régler leurs problèmes à court terme. Or, pour faire une vraie carrière en développement, malheureusement ou heureusement, il faut comprendre. Et c'est vrai que le C, c'est quand même c'est pas agréable.
C'est pas.
Mais c'est simple.
Le truc, c'est que il y a un sens qui est plus facile que l'autre, et une fois que la feuille elle est pliée, c'est plus difficile de déplier la feuille que tu vois et de la replier ailleurs. C'est plus facile d'apprendre le Python quand t'as fait du C que l'inverse, parce que il y a des habitudes que t'as prises, il y a des manières de penser que tu as acquises que tu dois défaire parce que on t'introduit des nouveaux concepts dont Python se fout. Donc moi, je déplore, je comprends pourquoi ça se passe, je déplore par contre le côté, mais d'une manière générale, un peu groupthink / giga court-termiste, parce que, en fait, je le déplore, non pas parce que c'est pas mon goût, mais je le déplore parce que l'alternative est marginalement plus chère pour un résultat moyen, même souvent aussi court-terme. Bien plus grand. Donc en fait, tu vois, c'est dommage de niveler comme ça.
Et surtout, moi, ce que je déplore, et ça, je m'en suis pas mal plaint, et à 42, et à Epitech, voire même un peu à Epita, il y a vraiment un manque de ce qu'on appelle les cours d'architecture des ordinateurs, comment un ordinateur fonctionne, parce qu'en fait, ou comment un système d'exploitation fonctionne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand tu passes d'un programme à l'autre, tout ce qui est calling convention, tout ce qui est la stack, tout ce qui est user space, kernel mode, ce sont des choses que très très peu de gens connaissent. Et en fait, tu te rends compte que c'est des choses que tu n'as même pas toi appris en cours, si tu les as appris par
besoin,
intérêt.
Pratique. Ouais.
Or, en fait, ces choses-là sous-tendent beaucoup beaucoup de choses, et c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, les programmes étaient ce qu'on appelait CPU bound. Donc c'était limité par.
C'est ce que j'allais y venir, ouais.
Par.
Compute bound ou memory bound, ouais.
C'est-à-dire.
Enfin, IO bound, pardon.
limité par la puissance du CPU. Et puis, principalement dans les 20 dernières années, 25 dernières années...
J'irais 2005, moi.
Ouais, par 20 dernières années, on est devenu limité par l'I/O, c'est-à-dire soit les accès réseau à Internet, parce que tu fais, en fait, tu passes ton temps à faire des calls, une API sur Internet, soit par rapport au disque, qui sont donc en fait les entrées-sorties. Et en fait, ça change pas mal, et c'est tout ce qui a été programmation asynchrone, async et tout ça, c'est qu'en fait, tu attends la réponse de quelqu'un, et donc en fait, la façon dont tu fabriques ton logiciel est différente. Et aujourd'hui, notamment avec l'IA, c'est la première fois où on est à un moment, maintenant on est memory bound. Tu vois,
mais compute bound aussi. On est revenu dans le monde, dans l'ancien monde.
Le dessin XKCD, là, tu sais, c'est fameux.
Non, mais bien sûr.
Ouais, mais en fait, comprendre ce que c'est de la mémoire, c'est difficile. Quand j'explique.
Ah bah, l'allocation mémoire, je me rappelle.
Je rappelle quand même pour tous nos éditeurs qui savent, on parle quand même des registres, qui sont une type de mémoire, qui sont des mémoires latch, du L1, du L2, du L3, la moitié, ils n'ont pas entendu parler de ça. Ensuite, tu parles de ce que tu appelles l'allocation, qui est donc la mémoire, la RAM. Et puis ensuite, après ta RAM, en fait, tu as ton stockage local, et puis en fait, ton SSD, et puis en fait, souvent, du stockage distant. Et quand tu regardes les ordres de grandeur, mais c'est flippant, c'est-à-dire que l'accès à un registre, on est dans de la nanoseconde. L'accès à un stockage S3 en
même
cloud,
le L1, hein.
T'es à quasiment centaines de millisecondes, 100 millisecondes, quoi, du 0,1 seconde. Donc en fait, tes ordres de grandeur, c'est du 10 puissance 8. C'est monstrueux.
T'as glacié 3 jours.
Ouais, mais sauf que si tu le sais pas, si on t'a jamais dit, bah, tu comprends pas. Comprendre tout ce qui est ce qu'on appelle vraiment. Aujourd'hui, personne ne travaille avec de la mémoire, on travaille tous en mémoire virtuelle. Comprendre le système de la mémoire virtuelle, des TLB, du MMU, de qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, tu peux allouer 4 gigas de RAM.
Des page fault et tout. Ouais.
Tu peux appeler. Tout le monde sait. Enfin, la plupart des développeurs savent ce que c'est une seg fault. Mais quand tu leur demandes, ça veut dire quoi? La plupart ne savent pas te dire que c'est une segmentation fault. C'est-à-dire que tu allais récupérer une partie de la mémoire qui n'est pas à toi. Mais tu dis, mais comment c'est possible? Comment je peux avoir de la mémoire qui n'est pas à moi? Parce qu'en fait, tu travailles dans un espace qui est virtuel. Le but, c'est pas de comprendre tout ça pour le podcast. On est beaucoup trop loin pour. Mais l'important, c'est que on va devoir revenir aux fondamentaux et que notamment les écoles d'ingénieurs informatiques et de techniciens informatiques doivent quand même revenir aux fondamentaux parce que justement la valeur ajoutée de coder du TypeScript, elle va être beaucoup plus faible ou du Python. Et malheureusement, pour moi, il faut commencer par le C ou par l'assembleur. Hein, je m'en moque, mais le C c'est une bonne idée. Pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est quand même mother of all languages. De fait, tu regardes, tous les langages sont presque tous les langages, sauf les langages fonctionnels. Vois Steve qui fait une tête.
Non, parce que moi je me disais même, tu vois, moi j'ai eu plus de facilité à apprendre l'assembleur qu'à apprendre le C. Parce que l'assembleur c'est bête et méchant.
À cause de la gestion des mémoires.
Entre autres, mais tu vois, en fait, c'est il se passe une chose par ligne. Et donc, en fait, il y a bien ce côté pas à pas. Après, bon, on va parler que l'assembleur, c'est aussi une abstraction. Donc, il se passe plein de choses. Mais le truc, c'est que... Parce que moi, j'ai un problème. C'est que, tu vois, j'ai du mal à apprendre conceptuellement. J'aime bien apprendre en pratique. Et donc, si j'ai pas un besoin, ça me fait chier, quoi. Et donc, pour faire simple, tu vois, ce que j'aimais bien avec l'assembleur, c'était que... Bah rapidement, ah bah oui d'accord, j'ajoute tu vois un chiffre à un paramètre et puis je retourne ou je fais un syscall.
Ouais, mais il te manque quand même en assembleur l'allocation mémoire, tu vois, l'équivalent du malloc, même si tu l'as sous-jacente.
Oui, mais du coup, si tu veux, dans ce sens-là, ça a été plus facile.
Ouais, okay.
Tu vois, par exemple, dans le cas quand j'ai appris comme tout le monde, tu vois, les pointeurs. Sur le coup, c'était un peu, je dirais ce que je comprenne, hein, où les pointeurs sont fonctions, tu vois. Mais moi, par exemple, les pointeurs sont fonctions, je les ai compris grâce, simplement en voyant le code assembleur, je dis, ah, oui.
Bah, c'était son troll au début, c'était épithèque, central, ingénieur, pas ingénieur, quoi.
Ouais, voilà,
c'est ça. Il y en a un qui conceptualise, il y en a un qui fait directement, quoi.
En fait, c'est effectivement, je pense qu'il va falloir que les écoles qui se disent techniciens informatiques, moi je les appelle ingénieurs informatiques, fassent un peu plus de théorie. Et un tout petit peu moins de pratique, parce que l'IA va faire la pratique dans la vraie vie. Et en fait, t'as plus vraiment de valeur ajoutée à prendre toute la STD, quoi. Tu vois.
Disons que le gap, il est pas, tu vois. Quand tu regardes un petit peu, si tu veux,
et
l'effort, il est pas énorme.
Et surtout, ça fera des ingénieurs bien plus efficace. C'est-à-dire travailler sur l'abstraction. Alors ça, c'est vrai que... Et ça, pour moi, le problème fondamental, c'est que en fait, les maths sont relativement mal enseignées au lycée. Et en fait, tu finis le lycée sans avoir fait de maths. Hein, parce qu'en vrai...
Moi, je fais des maths. Je fais STI. Il y avait des maths, hein.
C'est pas des maths.
Oui, mais non, mais contrairement au reste,
c'est que le centralien.
Non, mais c'est pas ça. C'est ça. T'as vu ça un peu
C'est pas ça. C'est qu'en prépa, on t'amène à des questions qui avant s'appelaient les maths modernes. C'est vraiment tout ce qui est les gestions de groupes, d'anneaux, d'ensembles qui sont des. C'est vraiment la première fois où tu fais un travail d'abstraction. Et ça, c'est totalement enlevé du lycée. Et c'est gênant parce que, en fait, au lycée, on te fait quasiment, fais ton intégrale, ce qui est vraiment le truc le moins intéressant. Tu fais ton intégration par partie, tu fais ces choses qui sont quasiment de l'application. Mais la partie vraiment maths utile pour l'informatique, c'est-à-dire espace vectoriel, c'est-à-dire abstraction.
Mmh. C'est post-bac, quoi.
C'est post-bac. Et ça, c'est très gênant parce que.
On dérive.
On dérive, ouais,
on dérive. Ouais, désolé. On dérive en termes de maths. Moi, j'avais une question sur votre stack de code assistant. Votre stack de code assistant.
Moi, hyper simple.
Les outils, ce que vous utilisez ou pas.
En fait, moi, je passe ma vie dans le terminal, pas l'éditeur, mais je passe ma vie dans le terminal. J'ai jamais réussi à me faire à Cloud Code ou à Codex les CLI. Pour une raison simple, c'est que pour moi, c'est pas l'endroit où ça doit vivre. Pour moi, ça doit vivre dans mon éditeur, parce que c'est lui qui a le contexte de ce que je fais. Alors, la CLI, le terminal a le contexte de l'exécution de ce que j'essaie de tester. Je parle pour mon cas, hein. Donc moi aujourd'hui ma stack, mon éditeur c'est Z. Je suis resté longtemps sur. J'ai jamais réussi à me faire à Vim. Je suis un IMAX. Je suis un enfant d'IMAX avec l'Epitech, voilà par capillarité. Mais donc j'ai fait beaucoup d'IMAX dans ma jeunesse. Mais
t'es toujours jeune, hein, t'inquiète pas.
Ouais, j'espère. Et du coup j'ai tous mes potes étaient à fond sur Vim, donc j'ai évidemment plusieurs fois testé Vim. J'ai jamais réussi à m'y faire. À mon grand désarroi d'ailleurs, parce qu'ils ont l'air tous de kiffer. Parce que moi, après, je suis un enfant aussi de Visual Studio. Hein. Donc, si tu veux, moi, le fauteuil, une fois que t'as goûté au fauteuil, c'est dur de retourner sur le tabouret. Là où Vim, on va te dire, si, un tabouret, c'est confortable. Ouais. La souffrance est une bonne chose. Je troll, mais... Non, du coup, je suis resté pas mal de temps sur, du coup, VS Code. Et puis, j'ai testé Z. Ouais. Et puis, du coup, voilà. Et donc là, aujourd'hui, en termes d'IA, bah, j'ai Copilot comme endpoint, puisque à un moment donné, je vais pas payer au token. Donc, on a avec ZML, on paye pour tout le monde un abonnement Copilot. Et donc, en fait, Z, il a une intégration native. Et donc, en fait, ça lui permet, en fait, aussi de donner le contexte à l'IA quand il veut aller chercher dans du code, etc. Et donc, en fait, j'ai un peu un mix de, j'ouvre la codebase que je veux creuser dans Z et je demande, alors, suivant les jours, le modèle. Gemini, Codex.
Donc tu fais un peu ton marché de modèles.
Mais principalement dans mon cas Z, et je vais même jusqu'à lui donner aussi en mode agent où je lui dis écoute, pour builder le code c'est comme ça, et donc il fait tourner le code. C'est assez bien foutu. Après on a des gens ici qui font du Vim avec des plugins ou même du VS Code, pareil des plugins, et on a des gens aussi qui font du CLI, du Cloud Code ou du Codex. Mais moi, principalement, c'est vraiment pour l'exploration, un peu d'écriture de code, beaucoup de suggestions dans l'inline, ça, j'aime beaucoup. Et puis enfin, les trucs chiants, tiens, j'ai refacto ce truc-là, j'ai rajouté un allocateur, machin, je sais qu'il y en a partout, s'il te plaît, règle-moi le truc, parce qu'en fait, à coup de CTRL-D, ça n'a pas bien se passé, quoi.
Et toi, t'as une petite...
L'inverse. Donc, moi, je fais que du Vim. Je suis tombé dedans il y a 20 ans, je suis toujours sous Vim. J'ai quasiment aucun plugin dans Vim, j'ai juste le plugin Ctags.
Vim ou NeoVim ?
Non, Vim.
Vim, d'accord.
Ah ouais, Vim, hein, ouais. Vraiment. Vim. Le plugin Ctags et quasiment c'est tout. Et j'utilise principalement les CLI Cloud et Codex. Jamais de Copilot. De toute façon, ça c'est un peu, je suis un peu allergique à tout ce qui est GitHub, donc vraiment pas Copilot. En général, mon défaut sur tout ce qui est langage compilé, c'est Cloud, et tout ce qui est web, c'est Codex, donc GPT en fait que je fais. Et soit c'est vraiment dans la console à côté, soit c'est dans le Vim où je lui demande en plugin directement, en fonction de ce que je fais. Quand je fais du web, c'est principalement du CLI, et quand je fais plutôt du C ou du Zig, c'est plutôt directement dans Vim.
Moi j'ai...
Et attends. Et dernièrement, on teste Devstral, de Mistral, et ça c'est assez cool.
On m'en a dit énormément de bien.
Alors,
je vais pas tester encore, mais...
Pour être très honnête, hein, Devstral 1, c'était médiocre. Devstral 2, qui est donc basé sur Mistral 3, franchement, le gap, il est incroyable. On est... Je vais pas dire qu'on est au niveau Claude, mais on... Enfin, tu vois, le gap, il a été... Il
Après,
a été bridge,
c'est le post-training. Hein, qui, ouais.
Ça va, je vais pouvoir le faire tourner chez moi. Et ça... Pour moi, ouais. C'est un changement radical. Donc, je suis très, très fan de Devstral 2. J'espère que Devstral 3, je vais pouvoir me dire, bah, enlever Claude Code, et en tout cas, enlever Codex, et avoir une tour chez nous qui font du token pour toute la société.
Tu parles de Devstral, tu parles du modèle, mais tu as vu, ils ont aussi leur CLI, Mistral
oui,
Vibe.
Ouais.
Ouais, d'accord.
Et surtout pour le faire tourner, tu vois, j'ai
ouais, t'as tout ce qu'il faut quoi.
J'ai du token parce que le but quand même pour moi c'est que tout ça tourne en local sans avoir c'est pas une question de coût, c'est une question j'ai pas envie de
ouais, je suis d'accord.
J'ai pas envie que tout la valeur de ma société soit en tout cas écoutée par l'extérieur. J'ai juste un point aussi que je voulais rajouter qui est un petit peu différent. J'utilise beaucoup l'IA pour générer de la doc.
Oui.
Et parce surtout. Parce qu'on est d'accord qu'écrire la doc, quand, c'est très chiant.
Ouais, mais
sauf quand t'es
en fait, on a beaucoup de docs, c'est encore du doxygène, etc. Et les syntaxes, elles sont pas belles, alors que quand même.
C'est encore du doxygène.
Bah, ouais. J'ai encore plein de docs en doxygène que j'écris, et en fait, parce que je suis mainteneur de plein de petits projets open source, tout est en C, maison plus doxygène. Je dois avouer, il te le fait, il vérifie ta doc, il fait pas d'erreur, t'as pas de typo, la syntaxe, elle est bonne, et je dois avouer que ça, j'utilise beaucoup.
Moi, je host une conférence qui s'appelle AI de doc. Qui s'appelait API de Docs, mais qui est devenu AI de Docs. Et il y a un dicton, enfin, le thème de cette année, c'était avant, il fallait avoir une doc. Non, vu que les développeurs ne lisent pas la doc, vu que les développeurs ne lisent pas ou peu la doc, c'était pas grave d'avoir une doc qui n'était pas fondamentalement à jour, même si on sait que c'est extrêmement important. Mais il disait maintenant que l'IA lit la doc, putain, la doc, il faut qu'elle soit à jour plus que jamais.
Mais c'est un vrai
et surtout
point.
Surtout pas laisser les anciennes versions de doc en ligne.
Exactement, parce que alors là,
parce que là et ça rend dans
les
contexte,
premières versions de Opus, ils te donnent des fonctions, en fait, elles n'existent plus, elles sont des préquêtes, ça correspond pas. Tu vois, c'était indexé sur des trucs qui s'étaient arrêtés en 2022, tu vois, et donc il y avait eu deux versions majeures. Et donc ça c'est très important. Et écrire des tests, notamment écrire des tests, parce que test unitaire, moi j'en écris pas beaucoup parce que c'est pas très utile pour notre cas, mais beaucoup de tests end-to-end rajouter. Une fois que t'as fait l'architecture de test, tu l'as fait une fois. Vas-y, rajoute-moi 10 tests sur tous ces cas-là et il y va. Toi, c'est pareil. Plutôt que de réfléchir à comment tu vas faire les tests, il y va et donc tu te jettes dans le bain et après tu vas essayer d'apprendre à nager, tu vois. Et ça, c'est quand même utile.
Moi, j'ai vu des gens qui font du vibe coding, enfin de l'assistance par IA, bon, ils font du TDD, donc ils disent génère-moi les tests avant de générer le code, bon, tu vois. Mais j'ai vu aussi du common driven development. Il dit génère-moi les commentaires, fais-moi toutes les commentaires parce que c'est plus facile à lire des commentaires en langage naturel que du code. Donc il fait, fais-moi tous les commentaires du code que t'aurais fait, si tu veux, comme ça j'interprète les commentaires, et ensuite je te demande de générer le code, mais je fais à partir des commentaires.
Après, ça ressemble quasiment à mon point MD.
Mais non, mais
oui, c'est ça.
Je sais pas si vous avez vu, mais c'est le créateur de Redis qui a, en fait, il a eu un truc intéressant. Il a demandé, en fait, donc il interagissait avec, je crois que c'était Claude Code, et il a demandé au fur et à mesure pendant le truc, qu'en fait l'AI l'écrive un fichier. En fait, de ce qui s'était passé, du plan. Et il y a deux trucs intéressants, c'est que lui, ça lui disait des fois quand elle se plantait, il allait corriger dans ce fichier-là. Mais aussi, c'est un truc, on a quelqu'un chez nous qui fait ça beaucoup. Il a des AI de planning et des AI d'exécution. Et en fait, il va les différencier. Donc, il va utiliser un modèle pour faire le plan. Donc le truc, il va aller chercher les trucs machin, il va générer un plan et après il va donner ce plan-là à un autre modèle.
Ah, ça,
qui,
j'ai
lui,
pas fait.
Se débrouille plutôt bien. Moi,
j'ai
plutôt mieux.
Moi, j'ai pas fait ça sur du code, mais c'est vrai que moi, j'utilise souvent deux IA, une qui génère, une qui vérifie ce que l'autre a fait.
C'est chouette, hein, quand même. Ça marche bien.
Non, moi, j'ai une question sur le disposable software. Il y a beaucoup d'architectes qui commencent à se dire, au fond, tu sais, on a fait des applis pour toute l'entreprise, tu vois, les business applications. Et puis ils disaient maintenant, avec le vibe coding ou le code assisté par IA, ça coûte tellement pas cher de faire une app pour un besoin. Ils disaient, au fond, donc, vous vous rappelez, il y avait tout le shadow IT, là.
Tu vas avoir un problème de maintenance.
Mais justement, ils ne veulent pas le maintenir. En fait, c'est un peu le.
Alors,
c'est tôt ou tard.
C'est comme. Ça dépend. Si c'est un script de migration.
Oui.
Tu vois, c'est comme du Perl, tu le fais, pas de problème, ou en Ruby. Mais c'est du write once, Read never.
Non, mais je vais te donner l'exemple le plus bête que j'ai vu en entreprise. Le gars, il veut transcrire un PDF en texte. Il veut transcrire un PDF en texte. Il va sur Internet, il regarde PDF transcriptor, PDF translator, machin, bidule.
Après, il est sous Linux, il fait apt-get install PDF to text, ça marche. Ouais, mais vas-y, continue.
Non, mais voilà. Non, mais je t'ai dit, on est dans le monde de l'entreprise.
Okay, vas-y.
On est dans le monde de l'entreprise. Le gars, il sait pas coder. Il a pas Linux. Et si tu veux, il cherche une application entre les malwares de 01.net, là, les machins bidules. Bon, il a pas le droit de télécharger son truc. Qu'est-ce qu'il dit? Il vibe code l'application. Comme ça, il a son truc, il le fait, puis le logiciel est jeté. Je te le fais en très court sur ce convertisseur de PDF.
Mais, c'est l'usage qui est intéressant, qui est important.
Ouais, mais sauf
si c'est
fait,
pour one shot,
oui,
c'est pas grave.
Mais c'est pour ça, disposable, quoi. C'est le logiciel Kleenex.
Oui, mais le truc, c'est qu'un logiciel, c'est pas pareil d'avoir un one shot que d'avoir quelque chose que tu utilises. Du moment où tu te mets à l'utiliser, avec, fondamentalement, tu vas avoir une maintenance. Oui, ça, c'est fondamental. Et donc,
le réutiliser.
Non, mais tu vois, il va y avoir une mise à jour de je sais pas quoi, ça va pas marcher.
Son PDF tout texte, évidemment, il va l'utiliser plusieurs fois. Il va le réutiliser en 6 mois. Et là, c'est là que les problèmes.
Mais il va le régénérer.
Alors, si il est capable de, justement, d'être suffisamment sérieux pour dire, je vais le régénérer, oui. Mais j'y crois pas. J'y crois peu. C'est-à-dire que, effectivement, il y a du cas, notamment des scripts de migration, des choses qui sont très contextuelles. Oui, il y a des besoins. Mais la plupart du code enterprise, 90%, c'est des applications internes métiers qui ont besoin de.
De toute façon, ce qu'on dit, moi, ce que je dis tout le temps depuis 10 ans en tout cas que je gère des gens, c'est écrire, c'est facile. Hein. Ce qui est dur, c'est créer du code, c'est facile.
C'est lire,
ce qui te met dedans, ce qui te tue, c'est de maintenir le code.
Non, mais on est d'accord.
Tu vois, et ça paraît un peu abstrait. Même ça me paraissait moins abstrait étant dev junior, sauf que moi j'ai vu le drag, en tout cas j'ai vu le vent de face que ça génère quand dans la même journée tu dois dire à un dev qui a fait une cathédrale, écoute, il y a ce problème très 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 bas niveau dans ton truc et ce problème causé par ce problème très très haut niveau et aujourd'hui il faut que tu me fixes les deux, je vois les regards qu'ils font et je vois la réponse et moi le regard que je faisais aussi. Donc la maintenance c'est quand même le truc et le problème de la vibe, enfin en tout cas de l'IA pour ça. Est-ce qu'elle peut faire, potentiellement, elle peut faire ça. Le problème, c'est que dans la durée, tu fais que de la correction, et à un moment donné, ça devient très instable. En tout cas, quand tu t'abstraites de comprendre.
Donc, tout le retour, il faut comprendre. Et donc, il va falloir retourner à la compréhension de ce que tu fais et faire moins, finalement, d'écrire du code un peu.
Mais il y a toute une gamme de disposable software qui va exister, et c'est tant mieux. Hein.
Mais justement, et la tendance un peu du personal software. Je me rappelle, c'est Solomon Hayek, qui disait, dans une de ses keynotes, il disait, il y avait des fonctions pour faire un cercle, il y avait des fonctions, tu vois, assez simples pour arriver à afficher un truc à l'écran, un peu
oui,
cool.
Oui, mais après, tu vois que c'était quand même un truc d'hobbyiste, c'est-à-dire dans le sens où il y avait quand même un côté, tu le fais pour toi.
Ouais,
parce que t'as un besoin.
Justement,
tu veux le partager.
L'idée du personal software, tu vois, l'idée de, on va coder les trucs pour nous-mêmes, nos propres applis, ça a disparu parce qu'il fallait apprendre à coder, tu vois, pendant 30 ans, il fallait savoir coder pour faire le truc. Et là, on retrouve des gens qui sont capables de faire une appli pour eux-mêmes, tu vois.
Oui, mais c'est après, très bien. Après, moi, je pense, JB, ils peuvent comprendre aussi, non pas en amont, mais ils peuvent aussi comprendre en aval.
Nous, notre directeur juridique, qui est un peu geek, je vous jure, il s'est devenu un vibe dev.
C'est trop bien.
Mais par contre, pas vibe dev en mode juste je fais le prompt et j'attends. Il va vérifier dans les fichiers, il modifie, il fait des prompts, il
non,
fait
mais
des
fichiers d'agent. Ça veut dire que le dev, qui devienne dev, entre guillemets, avant c'était la cause, enfin c'était en amont, moi il y a plein de gens qui peuvent devenir dev aussi en aval.
Oui, mais c'est pas du personnel, tu vois. Tu es déjà dans des outils qui vont être utiles pour toute ta société. C'est juste que tu permets. Et ça, c'est bien. Tu permets à des gens qui ont une compétence métier forte de revenir dans la tech.
Eh ben, écoutez, pour 2026, coder ou vibe coder, je pense qu'on a la réponse. Ça va coder, ça va vibe coder selon vos capacités, quoi.
Et pour tout le monde, en fait, hein, vraiment, pour tout le monde, du full vibe coding à de l'assistant plus ou moins velu. Mais mon point, c'est qu'il va falloir retourner un peu plus proche des fondamentaux pour comprendre et mieux guider ton stagiaire, quoi.
Moi, j'attends. Je sais que ça va arriver, mais je suis tellement à fond. J'attends le fait de le faire avec la voix. Faire chier tout le monde dans l'open space, mais c'est pas grave. Parce que moi, je suis tellement un feignant, tu vois.
Steve, on va le mettre dans une box
ouais,
plus
c'est
longtemps.
Ça. Dire, écoute, non, c'est pas ça. J'attends tellement parce que moi, taper un prompt, ça me fait chier. Moi, je suis. I'm so here for it, comme on dit.
Ça rappelle le chercheur qui avait lu le rapport sur l'utilisation de ChatGPT, 400 millions d'utilisateurs, et il dit au fond, l'IA, ça te permet juste de taper plus vite.
Et du coup, j'en profite, c'est un message pour toi, Nel. Vite, parce que j'en ai besoin, donc s'il te plaît, voilà, moi j'ai hâte.
Ça marche. Bah, écoutez, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo pour nourrir l'algorithme, à mettre des commentaires sur vous, comment est-ce que vous gérez coder, vibe coder, quels sont vos outils, vos assistants. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne vibe codez pas et que vous voulez rester en pur code, ou au contraire, est-ce que vous autorisez l'aide de l'IA? Voilà, bah, écoutez, c'était à la French.
Merci. Merci.
À la semaine prochaine.
De toute façon, je peux te dire, moi, quand j'ai fait le calcul, si t'es à 100K en France, c'est l'équivalent d'un salaire de 350K à San Francisco et à New York.
Sounds about right, ouais.
Oh, c'est fois pi.
Mais dans la distribution, hein, dans la gaussienne, hein. Quand t'as des trucs out of distribution, genre tu te casses la jambe, saloperie, tu vois, c'est pas le même chose. Si du coup tu fais 350K machin,
voilà,
basé à partir, puisque du coup t'es taxé à 42%.
T'es taxé à 42% sur les plus hautes tranches. Donc 42, ça fait 140. Bah, tu dois 20 000 balles, tiens, file 20 000 balles.